Si les abeilles venaient à disparaître, l'être humain n'aurait plus que quelques mois à vivre. C'est à Albert Einstein qu'on devrait ses propos. Alors même si Albert Einstein n'est pas connu pour être un spécialiste des abeilles, on peut lui prêter une certaine crédibilité scientifique. Aujourd'hui, en France, 30% des abeilles disparaissent chaque année. Sans le travail des apiculteurs pour renouveler constamment l'espèce, il faudrait donc 3 ans pour les voir disparaître. Parmi les causes de cette mortalité, les pesticides en sont une majeure. L'Europe s'est saisie du dossier, mais un vote vendredi dernier de la Commission européenne n'a pas suffi à les interdire. 13 pays ont voté pour, 9 contre, et l'abstention du Royaume-Uni, sans doute peu intéressé par les abeilles, de l'Allemagne, hôte des firmes Bayer et BASF, n'est pas parvenue à freiner le vote. Un autre vote sera sans doute proposé dans quelques mois, mais vous l'aurez compris, il y a urgence. Nous recevrons dans notre émission Pascal Jourdan, qui est directeur technique et membre de l'ITSAP, l'Institut des abeilles, pour évoquer le rôle des abeilles, les raisons de leur mortalité et les solutions possibles. Nous aurons également par téléphone dans quelques instants Pierre Raffneau, qui est auteur et éditeur de la revue L'Oiseau de Passage. Et nous recevrons, c'est l'artiste du jour, Thomas Pithiot, qui viendra nous interpréter en live, comme dans chaque émission du troisième jeudi sur Zoom Écologie. Un titre en live, voilà, c'est le printemps, même si ce n'est pas évident à Paris. Aujourd'hui, sur Zoom Écologie, on parle des oiseaux, des abeilles. Vous êtes sur Fréquence Paris Pure Lay 106.3. Zoom Écologie, c'est parti.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30. Sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3.
Donc, bonjour à tous, bienvenue à Zoom Écologie. Alexandre est derrière à la technique, on fait un peu tout aujourd'hui. Beaucoup de gens dans le studio, à la table de mixage, etc. Et on reçoit Pierre Raffneau, qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors vous êtes un auteur-éditeur d'une revue qui s'appelle L'Oiseau de Passage. Comment est-ce que vous définiriez cette revue ?
Alors c'est une revue écologiste qui s'intéresse à des sujets technologiques. Pour dire les choses en deux mots, on pourrait dire les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une revue qui va essayer d'aborder des sujets d'ordre technologique de façon assez ample, assez vaste, un peu sous toutes leurs coutures, avec un regard écologiste, c'est-à-dire en essayant de regarder un petit peu tous leurs impacts, tous leurs enjeux, que ce soit bien sûr au niveau des ressources, au niveau de la pollution, mais de façon bien plus large que ça également sur des aspects historiques, sur des aspects sociaux, sociétaux, etc.
Merci Pierre. Alors déjà, vous avez sorti à peu près 3 ou 4 numéros, dont un sur les biocarburants, et puis plusieurs sur les biocarburants, et ensuite sur le nucléaire, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça ?
Alors voilà, il y a deux numéros qui sont sortis sur les biocarburants l'année dernière, au début de l'année dernière, et un troisième sur l'énergie nucléaire au mois de juin. Et le numéro 4, qui va concerner la téléphonie mobile, est sur le point de sortir maintenant, au mois d'avril, là, début avril. Donc c'est des sujets en fait très très vastes. S'il y a deux numéros sur les biocarburants, c'est bien parce que justement c'était impossible de le traiter en un seul. Et même pour être clair, en deux numéros, le sujet est très loin d'être complètement analysé. Donc en fait, ce sont des dossiers qui se veulent le plus complet possible, avec beaucoup de vulgarisation, parce que je pense que c'est nécessaire de bien comprendre de quoi on parle quand on veut avoir un regard le plus objectif possible, ou en tout cas, s'il n'est pas objectif, en tout cas le plus informé possible sur ces sujets. Et donc voilà, j'essaye d'aller assez loin dans l'explication de ces techniques.
Merci Pierre. Alors pour être peut-être plus concret, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi un peu vous vous distinguez des autres ? Enfin, à partir de quel constat vous avez fondé la revue ? Quelle est la spécificité de l'oiseau de passage en l'occurrence ?
Alors ce que j'ai constaté par rapport à mes centres d'intérêt, qui sont donc liés à une prise de conscience qu'on vit une crise écologique majeure, ce centre d'intérêt qui concerne des questions très larges, des questions énergétiques, des questions environnementales, de biodiversité, etc. Ce dont je me suis aperçu, c'est que sur des sujets très importants, donc comme les biocarburants, comme le nucléaire, on avait beaucoup de difficultés à avoir une compréhension claire des enjeux. C'est-à-dire que l'information est très dispersée. Elle existe. On trouve beaucoup d'articles dans la presse qui vont traiter de ces sujets, mais de façon généralement très, très, très légère. C'est-à-dire, on va soit la traiter sous un angle très, très, très réduit, et donc on oublie l'essentiel de ce qu'il y a autour. Et on, ça, c'est le premier reproche qu'on peut faire. Le deuxième reproche qu'on peut faire, ça va être l'absence de vulgarisation, le fait qu'on n'explique pas les concepts sur lesquels on s'appuie. Ce qui fait que c'est très difficile pour le lecteur de se faire une opinion sur les réels enjeux qu'il y a derrière. Et puis la troisième chose, c'est quand l'information est tellement vaste et tellement contradictoire, est tellement dispersée, en particulier sur Internet, qu'il est très difficile d'avoir une vision synthétique d'ensemble pour pouvoir se forger une opinion.
Alors qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à ça ?
Il y a justement l'idée de faire des dossiers qui essayent de couvrir l'ensemble de des questions qu'on peut se poser sur un sujet. Pardon. Donc des dossiers qui soient qui soient très complets, qui abordent vraiment tous les aspects des problèmes, et qui ne négligent pas la partie vulgarisation pour justement qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Alors, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, ça va être le fait de beaucoup étayer tout ce que je présente comme information.
Alors, à partir de quoi est-ce que vous étayez justement ? C'est des études
Alors, je m'appuie sur des données publiques, en fait, essentiellement. On s'aperçoit que l'information existe, elle est pas du tout cachée, même sur des sujets comme le nucléaire. On trouve beaucoup, beaucoup d'informations issues d'agences publiques, issues de ministères, issues d'agences internationales. Il y a des nombreux rapports qui existent, qui sont très longs, qu'il faut décortiquer. Et la difficulté, justement, c'est d'arriver à trouver l'information pertinente dans ces rapports. Souvent, dans les médias, on va retrouver les conclusions synthétiques qui sont mises en exergue dans ces rapports, je dirais, à destination des médias, soit dans des communiqués de presse, soit dans les grandes conclusions. Et alors que l'information pertinente, elle est souvent, je dirais, non pas dans les bas de page, mais elle est à l'intérieur du rapport, et c'est pas celle-ci qui est mise en avant. Donc l'idée, c'est bien de m'appuyer là-dessus et de référencer tout ce que je présente comme information.
Et du coup, de l'expliquer de manière pédagogique ?
Alors effectivement, quand je parle de vulgarisation, il y a un côté pédagogique non négligeable qui consiste à chaque fois que je parle, je fais appel à un concept technique, à le définir, et quitte à le définir, même des fois, ça nécessite de remonter assez loin dans l'explication de ce qu'il y a derrière. Je peux vous donner un exemple concret sur le dossier du nucléaire. Donc que j'ai ouvert dans le numéro 3.
Que j'ai en face des yeux, en l'occurrence.
Voilà, j'ai commencé par redéfinir précisément ce qu'il y avait derrière la radioactivité. Qu'est-ce que c'est que la radioactivité ? Quels sont les différents types de radioactivité ? Et donc ça m'a amené, même en amont, à reparler de notions qui me rappellent pour certains certainement des cours de première ou de terminale, ou même d'avant, sur les atomes, sur les protons, etc.
Donc, il y avait la loi d'Avogadro qui a évoqué plein de choses pour moi. Je ne savais plus ce qu'étaient les moles.
Voilà, donc il y a un côté un peu didactique associé qui peut être intéressant pour remémorer des choses, mais qui surtout sert toujours quand même de support pour bien comprendre de quoi on parle. Hein, l'idée, c'est pas juste de refaire un cours de physique, en l'occurrence, pour remplir des pages, mais bien de donner de l'information qui est utile pour qu'on comprenne l'ensemble du raisonnement.
Alors, j'ai envie de vous poser une question, du coup je suis un petit peu curieuse. Qui êtes-vous pour apporter justement cette simplification des choses assez techniques, assez technologiques ? Vous avez une formation scientifique ? Comment est-ce que vous avez été amené à... On a parlé du constat tout à l'heure, le fait qu'il n'y avait pas d'autres vues comme ça qui existaient, mais comment est-ce que vous pouvez être plus pédagogue que d'autres ?
Je ne pense pas être forcément plus pédagogue. Disons que je prends le temps de le faire dans la revue. Le problème dans les...
Mais vous avez une formation scientifique, c'est ça ma curiosité, en
oui,
fait.
Oui, mais je vais répondre à cette question aussi. Donc j'ai une formation scientifique, effectivement, qui me permet, je dirais, de comprendre, quand je lis des rapports scientifiques, de comprendre l'essentiel. Bon, je ne dis pas que des fois je ne tombe pas sur des os. Hein. J'ai parfois besoin qu'on m'éclaire un petit peu, parce que tout n'est pas forcément limpide. Mais disons que ça facilite la lecture, quand même. Donc sur cette base, j'ai quand même quelques notions qui me permettent moi-même de retranscrire ce que j'ai compris, éventuellement de manière simplifiée, pour le lecteur. Maintenant, encore une fois, je pense que plein d'autres personnes seraient capables de le faire, y compris dans d'autres journaux. Le fait est que ce n'est pas ou peu fait, parce que ce n'est pas l'objet, en fait. Ce n'est pas l'objet de ces articles que de faire ces vulgarisations approfondies. Ou alors, ça va être un article qui va être vraiment dédié à vulgarisation, et il n'y aura aucune mise en perspective autre, qui sont tout aussi nécessaires, justement, pour comprendre les impacts et les enjeux des technologies.
D'accord. J'ai envie d'aller un peu plus loin sur votre parcours, parce que justement vous avez est-ce que vous êtes sur le parcours et puis les raisons qui ont fait que vous avez fondé cette revue, vous êtes quoi, vous êtes un militant, vous appartenez à un parti politique,
Non, je suis pas un militant. Je milite dans aucun parti ni dans aucune association écologiste, hein, de façon pratique. Donc c'est vraiment en toute indépendance vis-à-vis de ces organisations-là que je travaille. Après, si vous voulez, le constat que j'ai fait de manque d'informations qui me manquait pour moi, mon idée c'est que ça manque à d'autres aussi. Et je pense que ça peut répondre à un besoin de toutes les personnes qui, comme moi, ont peu à peu, au fil du temps, pris conscience qu'on vit une crise écologique majeure et qu'il va bien falloir réfléchir à tout ce que l'on fait, en particulier en pensant à cette espèce de fuite en avant technologique à laquelle que nous vivons aujourd'hui.
J'interviens dans le débat. Comment c'est quoi votre méthodologie en fait ? Vous travaillez tout seul ? Vous avez des journalistes autour de vous ? Comment vous fonctionnez ?
Je travaille tout seul en fait. Je travaille essentiellement tout seul. Je fais beaucoup de recherches sur Internet sur la base sur tout ce qui est site public. Donc en fait, je travaille par exemple avec le site de, si je prends la téléphonie mobile sur le sujet sur lequel j'ai travaillé récemment.
Alors c'est un numéro, juste je vous interromps sur la téléphonie, en l'occurrence c'est un numéro qui va sortir, on va peut-être en parler un petit peu plus tard.
Oui, donc on peut parler des numéros précédents si vous voulez. Sur les biocarburants, j'ai beaucoup travaillé avec des rapports de l'ADEME, par exemple sur tout ce qui est ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, qui permettent de faire le bilan énergétique, par exemple, ou le bilan carbone de tel ou tel produit. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a des rapports qui sont très complets, qui présentent des données, qu'il faut lire. C'est des rapports de centaines de pages, et il faut les regarder dans le détail pour en tirer l'information pertinente.
Il faut être capable de les digérer aussi, de les comprendre.
Oui, mais a priori, c'est quand même lisible, hein, c'est accessible, mais c'est surtout que ça demande beaucoup de temps. Et le citoyen de base qui travaille n'a pas le temps de se plonger dans le détail, dans les confins de ses rapports. Il va se contenter de ce qui va être ressorti dans les conclusions et présenté de manière encore plus raccourcie, je dirais, au niveau médiatique.
D'accord, donc vous proposez en fait un travail de synthèse sur des dossiers complexes que vous tentez de vulgariser pour le grand public.
Exactement.
Pourquoi un document papier finalement pour cette revue ?
Alors il y a plusieurs raisons. D'abord j'avais envie d'écrire. Donc alors pourquoi papier plutôt qu'internet, ça répond pas à la question. Mais disons que déjà j'avais envie que ce soit écrit. Donc il y avait une envie d'écriture à l'origine de ce projet. Et la deuxième chose, donc pourquoi papier ? Parce que j'avais justement envie d'être cohérent par rapport à un besoin de dématérialiser un petit peu, non pas de dématérialiser, justement, de refuser cette dématérialisation systématique par Internet, et d'aller un petit peu à l'encontre du déclin de la presse, et d'essayer de montrer qu'on pouvait très bien faire des revues alternatives qui puissent éventuellement trouver leur public en dépit de tout ce qu'on peut croire.
Parce que où est-ce qu'on vous trouve, du coup ?
On me trouve difficilement.
C'est par abonnement, en fait, surtout ?
On me trouve essentiellement par abonnement. Je suis aussi en dépôt-vente dans un certain nombre de magasins bio. En France, il y en a 70. Hein, sur le site internet de la revue, il y a la liste des magasins.
L'oiseau-de-passage.fr ?
Voilà, www.loiseau-de-passage.fr. Donc il y a la liste des magasins, il y en a 70 en France, c'est très insuffisant, il faudrait que je trouve du temps pour en démarcher d'autres.
Ça vous fait beaucoup de métiers en même temps. Rédacteur, auteur.
Oui, ça fait presque un petit peu trop. La communication est un petit peu le point faible de la chose.
En même temps, on est là pour l'assurer ce soir. Donc, tout va bien. Est-ce que vous pouvez un peu développer les différents sujets que vous abordez, justement, sur le numéro de sur la téléphonie? Je crois qu'il est sous presse, quoi. Enfin, il va bientôt sortir.
Oui, il est quasiment sous presse. Il sera chez l'imprimeur la semaine prochaine. Alors, ce sujet, c'est aussi un vaste sujet. J'ai décidé de commencer par traiter l'aspect le plus connu de ce thème, qui est la question de l'impact de la santé sur la santé des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire des antennes relais et des téléphones. C'est celui dont on entend le plus parler, donc c'était indispensable de commencer par là. Et c'est typiquement, justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le genre de sujet où on entend à peu près tout et son contraire, et où on lit à peu près tout et son contraire, et où c'est très difficile pour le citoyen de se faire une idée de ce qu'il faudrait croire sur ou penser de ce sujet.
Alors de quoi parle le numéro ?
Donc on va trouver un très gros article, je dirais, qui va dépiauter un petit peu cette question des impacts sanitaires. En présentant de manière très détaillée les points de vue des deux protagonistes du débat, du moins des deux camps du débat, à savoir d'un côté les pouvoirs publics, qui, selon lesquels il n'y a aucun effet démontré des ondes, et donc pas lieu de modifier la réglementation, et les associations, comme Robin Détois, qui au contraire militent pour l'obligation de diminuer l'exposition compte tenu des multiples études qui démontrent des effets sur la santé. Donc déjà, l'idée, c'est de présenter un petit peu dans le détail tout ce qu'il y a comme effet supposé ou réfuté par les uns ou les autres, et d'appuyer, conformément à la ligne de l'oiseau de passage, d'appuyer cette présentation sur une approche de vulgarisation en amont assez poussée de ce que sont les ondes électromagnétiques, de ce que c'est que l'exposition aux ondes électromagnétiques, comment on la mesure, etc.
Et donc c'est complètement axé, c'est un numéro, c'est un choix éditorial, j'imagine, d'être axé complètement sur les effets sur la santé.
Oui, c'est un choix parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens, et c'est un vaste sujet, c'est-à-dire que c'est pas du tout simple à traiter. Et au-delà même, du débat qui oppose les uns et les autres dont je viens de parler, eh bien, l'idée aussi, ça a été de prendre un petit peu de recul, justement, par rapport à ce débat, et d'avoir un regard qui soit un regard un petit peu décalé par rapport à cet antagonisme-là. Donc l'idée, c'est pas simplement de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, ou même simplement, l'idée, c'est pas non plus de renvoyer dos à dos les deux protagonistes. Et je vais profiter de cet article pour faire quelques digressions ou quelques réflexions sur le principe de précaution, sur la notion de gestion de risque et plus globalement sur la technologie en général.
D'accord. J'ai envie de vous demander un petit peu quelles sont les conclusions qu'on peut attendre ou les différentes pistes. Si vous deviez résumer ce numéro sur la téléphonie mobile en quelques phrases, vous en diriez quoi ?
Alors,
en forme de slogan publicitaire.
Ouais, je suis pas forcément très très doué pour les slogans publicitaires.
Essayons.
Non, mais disons que ce que je vais présenter comme point de vue, il va être à la fois, je dirais, moins affirmatif que ce que disent les associations en termes de nocivité, puisque je considère que je n'ai pas la compétence pour démontrer, pour être certain que qu'il y a nocivité des ondes sur la santé. Je ne peux pas arbitrer le débat sur le plan technique. En revanche, compte tenu des doutes et compte tenu de tout ce qu'on peut dire sur le sujet, j'ai au contraire une position qui est finalement plus radicale, bien plus radicale que ce que proposent les associations, et où je vais plutôt expliquer que si on avait un véritable contrôle démocratique et une véritable réflexion sur la technologie, on serait probablement amené à renoncer purement et simplement à ce type de technologie.
Est-ce que je peux juste vous demander si vous avez une radio à côté de vous pour l'éloigner éventuellement un petit peu, parce que ça...
Ah non, je n'ai pas de radio du tout.
Vous n'avez pas de radio, donc on entend un tac-tac-tac,
mais
qui n'est pas lié à ça.
Un problème technique qui est super...
C'est peut-être mon téléphone, je ne sais pas, mais...
C'est un problème de téléphonie mobile, peut-être.
Oui, ouais, là, c'est un téléphone.
Des ondes magnétiques.
C'est un téléphone, on ne peut plus fixer.
Des ondes négatives. Alors, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Je crois que vous avez, en plus, à chaque fois que vous nous dites qu'il y a assez de vastes sujets, je pourrais aller plus loin. Dans un numéro, je pourrais en parler. Et vous avez plein d'idées. En préparant l'émission, je crois qu'on a, parlé rapidement. Il y avait les nanotechnologies. Il me semble que ça peut faire partie des sujets à venir, n'est-ce pas?
Oui, alors les nanotechnologies, ce sera le prochain numéro. Mais pour faire le lien, effectivement, avec la téléphonie mobile, où il reste beaucoup d'aspects à traiter qui sont pas dans ce numéro et que je traiterai dans les prochains numéros, on pourrait parler, par exemple, de tout ce qui est surveillance généralisée permise par un certain nombre de technologies, dont la téléphonie mobile. Les nanotechnologies en font partie, qui sont un moyen de développer, par exemple, ce qu'on appelle les RFID, les Radio Frequency Identification, donc les petits chips qu'on peut mettre pour pucer les animaux et bientôt les personnes. Donc ça, c'est un des thèmes qui va avec à la fois la téléphonie mobile, qui permet par la géolocalisation de faire un peu de la surveillance, et les nanotechnologies. C'est un petit peu transverse, mais c'est effectivement quelque chose qui sera traité à l'avenir. Donc voilà pour l'aspect, pour un petit peu faire le lien entre les deux, mais il y a plein d'autres aspects qui sont à la fois, qui couvrent un petit peu toutes les nouvelles technologies de l'information, qui concernent les ressources, qui concernent la gestion des déchets avec l'obsolescence des appareils, qui sont autant de thèmes à creuser à l'avenir.
Bah écoutez, sa longue vie à l'oiseau de passage, il me semble qu'il y a pas mal de choses que vous allez évoquer.
On va peut-être rappeler le site internet pour nos auditeurs.
Alors Pierre.
Alors c'est www.loiseaudepassage.fr, l'oiseau de passage tout attaché.
Alors juste une anecdote, pourquoi l'oiseau de passage?
Alors l'oiseau de passage, ça vient d'une chanson de Georges Brassens qui s'appelle Les oiseaux de passage. Qui est en fait au départ un poème de Jean Richepin, qui est un poète du 19e siècle. Et donc cette chanson, en fait, elle met en scène d'un côté tout ce qui est animaux de basse-cour, les vieux coqs, les dindons, etc., qui sont un petit peu coincés dans leur ordre établi et qui ne veulent pas vraiment sortir de leur ordre quotidien établi. Par opposition aux oiseaux de passage, qui sont ces êtres qui voit plus loin, qui essaye de franchir les montagnes, de réfléchir en voyant un petit peu plus loin que le bout de leur basse-cour.
Voilà. Merci Pierre de finir par un petit peu de poésie de vos montagnes du Grésivaudan en l'occurrence. Puis on vous dit à bientôt, puis on recommande vivement l'abonnement à l'oiseau de passage.
Eh bien, je vous remercie, et puis à bientôt.
À bientôt, au revoir, bonne soirée.
Au revoir.
Et on passe directement après ce moment de poésie
à notre pause musicale, effectivement, puisque dans Sac 3e jeudi, comme vous le savez, on a toujours le plaisir de recevoir un artiste. Et aujourd'hui, l'artiste, c'est Thomas Pithiaud. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors Thomas qui a à peine le temps de rentrer dans le studio, d'accorder sa guitare à l'extérieur et de se poser. On va raccrocher le téléphone. Voilà. Merci à Pierre Raffneau pour cette interview. C'est un peu sportif aujourd'hui parce que notre technicien nous a fait faux bond. Il s'en excuse et on l'excuse évidemment pareillement. Donc notre artiste du jour, Thomas, vous êtes en plein dans l'actualité aussi, puisque vous avez un album qui vient de sortir le 4 mars dernier, et vous serez en concert, je le dis tout de suite, pour ne pas oublier de le dire, à l'Européen la semaine prochaine.
Jeudi, vendredi et samedi, oui.
Jeudi, vendredi et samedi, j'ai prévenu de venir jeudi. J'aurais peut-être pas dû choisir le premier, peut-être un rodage.
Non, c'est bien, parce que les soirs de première, il y a moins de monde, et ça permet aussi de, voilà, effectivement, de roder les choses, de prendre... repères dans
oui, puis c'est pas comme si
salle.
Vous c'est pas comme si c'était votre premier concert non plus.
C'est pas moi, c'est pas, mais c'est vrai que sur les sorties d'albums comme ça, des concerts parisiens, on a une pression un peu plus forte. Puis on se demande si on va pouvoir remplir les salles, comme c'est nous qui produisons en plus ce genre de soirée. C'est toujours un petit peu. Puis quand on a eu la bonne idée de le foutre dans le week-end de Pâques, ça rajoute de la pression en plus.
Alors il y a quelque chose d'assez original dans votre projet. Je sais pas si ça a déjà il y a d'autres précédents, mais c'est un projet familial finalement, votre dernier album, puisque vous êtes de père en fils dans la musique. Et cet album, vous l'avez conseillé, vous l'avez réalisé, enregistré et composé à deux avec votre père.
Ouais, il y a deux répertoires quand même, il y a deux disques différents, c'est un double album, mais il y a beaucoup de passerelles entre les deux disques, il y a des chansons qui sont effectivement signées à quatre mains, et puis il y a des voix de l'un ou de l'autre qui se baladent pour souligner les mélodies et les propos de l'autre, voilà, au hasard des chansons. Puis on a enregistré en même temps avec la même équipe de musiciens. Non, c'est une vraie aventure familiale qui s'appelle Transport Pitio, père et fils,
pour souligner
aussi le côté artisanal de notre démarche et de notre façon de faire ce métier depuis le départ.
D'accord. Vous en êtes pas à votre premier album, parce que j'ai vu qu'il y a au moins six.
Oui, c'est le sixième. Mon père, il en a fait 5-6 aussi. Lui a beaucoup travaillé ces 10 dernières années sur de la poésie chantée. Il a mis en musique des gens comme Éluard, Desnos, Césaire, Senghor. Et puis l'idée de cette aventure familiale, là, c'était aussi de l'encourager à reprendre la plume et puis toutes les chansons qu'il avait initiées, qui étaient encore en chantier, pouvoir les aboutir et puis l'enregistrer pour le sortir ensemble et puis le donner à voir aussi au public ensemble. Parce que moi, j'ai pas mal tourné ces dernières années. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent et qui ne savent pas forcément que mon père est aussi auteur. Et c'était important que de mon point de vue, il puisse aussi accéder à un public un peu plus large.
D'accord. Et c'est drôle, une aventure comme ça, père-fils, et il y a eu des moments compliqués ou c'était que du bonheur ?
C'est les deux. C'était, évidemment, je veux dire que si on demande à tous les auditeurs si une aventure comme ça avec leur père ou leur mère... ça ressemble uniquement à un horizon serein et paisible, je pense que les gens vont vite se détourner et se dire qu'est-ce que ce calvaire de partir un an et demi en tournée avec ses parents ou enregistrer un album, c'est forcément de la friction, forcément des discussions âpres, mais aussi c'est plein de moments d'émotion, de retrouvailles, de cohésion, mais effectivement il a fallu discuter, il a fallu se mettre d'accord, ce qui n'était pas toujours évident, mais disons que moi j'avais pris aussi le parti d'arranger et de réaliser l'ensemble. Donc, il m'a fait aussi confiance sur un certain nombre de choix artistiques et il ne m'a pas mis des bâtons dans les roues en permanence. Hein.
D'accord.
Mais voilà, on, des fois, on a un rapport un peu chien-chat. Ça discute, ça se prend la tête, puis 3 minutes après, ça rigole, ça chambre. Voilà.
Ouais, enfin, bon, la vie, quoi.
Oui, on se connaît bien, on est habitué à travailler ensemble.
D'accord. Alors, on va, comme c'est la tradition ici, écouter un titre en live et en acoustique. Hein. Les gens qui sont passés dans ce studio savent que rien n'est fait dans ce studio pour que ça fonctionne, mais ça fonctionne toujours très bien. Donc, Thomas est venu avec sa guitare et on va vous écouter pour un titre.
On aura tout compris de l'espace, on aura su ce qu'il y avait sous la glace, analyser la flore et la faune, le chlore et l'ozone, le fond et la forme, et puis les infiniment grands et petits, on aura su qu'on vivait parmi des milliers d'espèces, des centaines d'épices, des fumées épaisses, et puis on aura étudié les autres, inventé des dieux, des apôtres, récupéré l'énergie solaire, foré les sous-sols et perçu la vie cellulaire. On aura su si l'or était vrai, le convertir en papier monnaie, filmer des insectes et des scènes infectes, inventer des sectes et puis, mais qu'est-ce qu'on aura compris de nous, Walou? Tout compris du cerveau, le reliant à des terminaux, changer l'idole en statue de cire, tailler des menhirs, donner les clés de l'avenir. On aura su le langage des mouches, identifier les cellules souches, aplanir les dunes, décrypter les runes, décrocher la lune et puis, mais qu'est-ce qu'on aura compris de nous,
qu'est-ce qu'on aura compris de nous? Mais qu'est-ce qu'on aura compris de nous? Walou.
Bravo, merci. C'est pessimiste comme chanson?
Pas complètement, je pense que ça,
oula,
ça donne la marche à suivre pour la suite de nos combats à livrer, quoi, aussi, après avoir exploré l'extérieur beaucoup, le lointain, pourquoi pas essayer de se comprendre aussi davantage. Se comprendre, c'est pas uniquement être centré sur son nombril, c'est comprendre les émotions humaines et puis arriver à vivre les uns avec les autres sans être besoin d'avoir d'être médiatisé par un certain nombre de choses, d'outils, de techniques.
Ou de tout comprendre. Ouais,
oui, je pense que c'est aussi une illusion de vouloir tout comprendre, tout analyser, tout programmer, tout répertorier. Il faut aussi laisser de la place à l'inconnu, au mystère.
Voilà. À la poésie.
Ouais, la poésie.
Un très beau texte, en tout cas. Ça vous a plu, Pascal?
Oui, c'est un très beau texte.
Merci.
Surtout quand on connaît la danse des abeilles et le langage des mouches. Voilà. Oui. C'était plutôt celui des abeilles, j'espère.
Ouais, oui.
Eh ben, merci. On va rappeler que vous êtes en concert, le 28, le 29 et le 30. Donc la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi, à l'Européen, à Paris. Que ouais. Votre double album, donc écrit et réalisé avec votre père, est sorti depuis le 4 mars. Que vous avez sûrement un site internet, donc on peut sans doute donner l'adresse.
ThomasPitiot.net, www.thomaspitiot.net.
Très bien.
Mais si vous voulez, je vous en refais une toute petite courte. Hein. La première était courte, je ne sais pas si vous avez le temps. Mais...
On se laisse 3 minutes.
Je suis venu de loin.
Allez, c'est parti, on écoute une autre chanson. Et je vous en prie.
On ferait nos valises tous les quatre matins, libérés de l'emprise du réveil qui nous atteint. Car l'esprit d'entreprise, c'est celui du malin. Je vis très bien la crise de rire avec mes copains. Moi je serais moins inquiet si le monde fonctionnait de façon générale comme une assemblée généreuse. Façon loi 1901, ça m'irait bien. Heureux le bénévole s'envole quand l'actionnaire prend les nerfs. S'il y a une chose qui me console, c'est d'imaginer l'éducation populaire. Alors on invente et on braille, on fait des étincelles au bercail. Je trinque à l'associatif car j'ai l'al collectif. Moi je serais moins inquiet si le monde fonctionnait de façon générale comme une assemblée généreuse. Façon loi 1901, ça m'irait bien. Moins t'es qu'est plus tranquille si tout le monde t'est qu'assemblé. Pour nos vives têtes collées en dancelle, y en a généreux. On maniait 1901, ça t'équipait moins bien.
Merci donc Thomas Pitiot en direct et en live sur Fréquence Paris Pluriel. Je rappelle que vous êtes sur Zoom Écologie. Et on va tout de suite aborder notre sujet du jour. On reçoit pour ça Pascal Jourdain, qui est membre directeur technique de l'ITSAP, l'Institut des abeilles, pour évoquer ce problème d'actualité qui est donc le problème des abeilles. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler... Bonjour Pascal.
Bonjour.
Ça grince beaucoup dans mon casque. Je vais l'enlever et le débrancher. Voilà. Bonjour Pascal. Donc vous...
Vous appartenez à cet institut, un institut assez récent qui s'appelle l'ITSAB, donc l'Institut des abeilles. Je ne sais pas pourquoi c'est ITSAP.
Alors, ça veut dire Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation. Et nous parlerons de la pollinisation, bien évidemment,
d'accord,
au cours de cette émission.
Alors, justement, est-ce qu'on peut commencer par dire à nos auditeurs, par rappeler que les abeilles ne font pas que le miel, mais qu'elles sont aussi des pollinisatrices, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Et ça sert à quoi d'avoir des pollinisateurs dans notre écosystème ?
Eh bien, justement, voilà, c'est tout le principe de l'écosystème, c'est de se reproduire et d'être durable. Et en ce qui concerne les plantes à fleurs, en tout cas, elles ont besoin, pour garder de la diversité génétique, entre autres, et de l'adaptabilité, donc, elles ont besoin de ne pas se féconder, d'être fécondées par elles-mêmes, mais justement d'être fécondées avec d'autres fleurs, que, voilà, il y ait du transport des gamètes, qui sont les... le patrimoine génétique des plantes et donc les insectes pollinisateurs assurent ce transport. Donc en fait, une fleur est constituée à la base, en tout cas si on se contente de l'essentiel, d'étamines qui portent le pollen des fleurs, donc la partie mâle de la plante, et d'un pistil qui est la partie femelle de cette plante. Et donc tout le rôle des abeilles est bien de transporter le pollen vers le pistil d'une autre fleur, en général de la même espèce évidemment, pour que la fécondation puisse avoir lieu.
Donc si ces abeilles s'arrêtaient de travailler du jour au lendemain, si elles se mettraient en grève, comme ça arrive parfois en France, qu'est-ce qui se passerait ?
Alors, s'il n'y avait brusquement plus d'abeilles, il est évident que la situation serait extrêmement périlleuse, à la fois pour la biodiversité, mais aussi pour l'alimentation, puisque un grand nombre de mets que nous consommons, en général tous ceux d'ailleurs qui sont colorés, donc essentiellement les fruits et légumes, ont besoin de pollinisateurs pour justement assurer la production de fruits de qualité, sucrés ou en tout cas de forme adéquate.
Ça veut dire que sans abeilles, on aurait des fruits en noir et blanc ou on n'aurait plus de fruits du tout ?
Non, on n'aurait plus de fruits du tout.
On n'aurait plus de fruits du tout.
Dans un certain nombre de cas, oui.
D'accord. Donc, on voit bien le rôle des abeilles. Aujourd'hui, ces abeilles subissent une mortalité qui paraît excessive. On parle de 30% des ruches qui disparaissent chaque année en France. Et qui sont donc renouvelés par le travail des apiculteurs. Est-ce que c'est une mortalité ? C'est quoi la durée normale de vie d'une abeille ?
Alors on va se lancer dans quelques petites subtilités. C'est-à-dire qu'il y a la durée de vie d'une abeille et il y a la durée de vie d'une ruche, enfin d'une colonie d'abeilles.
D'accord.
Donc la durée de vie d'une abeille, elle est variable en fonction de la saison. L'été, les abeilles durent relativement peu de temps parce qu'elles se transforment assez vite en abeilles butineuses, donc qui vont à l'extérieur, qui sont soumises à toutes les contraintes de leur environnement. Et en gros, les abeilles vivent 5-6 semaines l'été. Par contre, vous comprenez qu'au cours de l'hiver, il n'y a plus d'activité de ponte de la reine, il n'y a plus de renouvellement donc, des populations d'abeilles. Et donc, pour ce faire, les abeilles, enfin, c'est la suite de l'évolution, hein, les abeilles d'hiver... dure 3-4 mois, suivant les cas, suivant les régions, etc. Donc elles ont une durée de vie beaucoup plus longue.
D'accord.
Elles portent en elles-mêmes plus de réserves et elles ne sont pas tout à fait constituées de la même façon que les abeilles d'été.
D'accord. Donc quand on parle de 30% de mortalité, c'est le nombre de ruches en fait, qui disparaît et qui est obligé d'être...
Oui, alors voilà, 30% de mortalité, c'est les chiffres assez affolants qu'on relève dans nos enquêtes, dans nos sondages divers du monde apicole.
Un taux normal, ce serait quoi ?
Un taux normal, c'est 5 à 10% en D'accord. fonction de la météo, parce qu'évidemment, le climat pèse lourd aussi sur les abeilles. Hein, elles sont très sensibles aux aspects climatiques, donc quand les hivers sont rigoureux, il est normal d'en perdre un peu plus. Mais 30%, c'est dépasser les bornes, oui.
Donc il y a un souci. Il y a un souci également en France. Ben, ça, c'est, on revient sur le miel, mais les chiffres que j'ai lus aujourd'hui nous indiquent qu'il y a une trentaine d'années, on produisait 40 000 tonnes de miel. C'est à peu près ce qu'on consomme. Et qu'aujourd'hui, on n'en produit que plus de 15 000, ou à peu près. Donc en fait, on est dépendant à 40-60% d'importation du miel aujourd'hui.
C'est vrai que pour la France, il y a eu une inversion qui est assez étonnante et assez problématique, hein, puisque nous étions quasi autosuffisants en miel. Il y avait toujours un petit va-et-vient d'import-export parce qu'on était intéressé par des miels venus d'ailleurs, peut-être un peu moins chers pour assurer l'ensemble de la gamme des miels. Mais en gros, on était quasi autosuffisants. Et puis là, c'est vrai que depuis les 20 dernières 20-30 dernières années, on est passé tout d'abord juste des déficitaire et puis maintenant on est très grandement déficitaire.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
On ressemble à l'Europe. Voilà,
on ressemble à l'Europe.
Si, si on veut, l'Europe a toujours été déficitaire en miel et a toujours importé beaucoup de miel. Et l'Allemagne a un grand rôle là-dessus, c'est une plaque tournante du miel. Mais la France n'était pas dans ce cas-là.
Elle,
au contraire, elle participait à une partie de l'autosuffisance de l'Europe. Et là, voilà, la situation s'est dégradée considérablement.
D'accord. Alors, si on doit lister les causes de cette mortalité.
Alors, les abeilles sont des individus comme les autres. Donc, forcément, ces individus-là peuvent mourir d'énormément de causes. Elles peuvent être malades, ça existe, les maladies des abeilles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent être victimes du climat. Les climats trop rigoureux pendant trop longtemps vont les perturber si elles n'arrivent pas à avoir suffisamment de provisions. Et puis, il y a évidemment un troisième point que vous avez cité dans l'introduction, c'est la qualité de l'environnement, et particulièrement, évidemment, les biocides et les pesticides qu'on peut retrouver dans la nature. Et les abeilles ne savent pas trop faire le tri, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'éloigner naturellement d'une fleur ou d'une culture qui peut être toxique pour elles. En fait, elles vont être victimes de plein fouet de cette culture si effectivement le produit a des effets toxiques sur leur métabolisme.
D'accord.
Après, c'est une situation un petit peu compliquée parce que... Il y a 30 ans, 40 ans, quand on avait une intoxication d'abeilles, on retrouvait énormément d'abeilles mortes devant les ruches. C'était toute une famille de produits, ou certaines familles de produits, les organophosphorés, les organochlorés, pardon pour ces mots un peu barbares, mais qui avaient un effet knockdown. Elles mettaient les abeilles KO, elles ne se relevaient pas, et on avait des tapis, ce qu'on appelait des tapis d'abeilles mortes devant les ruches. Maintenant, la situation est beaucoup plus complexe parce qu'on a des molécules qui sont beaucoup plus fines, qui agissent à des doses beaucoup plus faibles aussi, qui rend leur découverte et leur analyse compliquée quand on recherche une cause. Et souvent, on a des effets qu'on appelle sublétaux, mais qui ne conduisent pas à la mort directe, mais qui finalement ont le même impact. C'est-à-dire qu'on a démontré, là, dans une étude toute récente qui a été publiée dans Science, que certaines molécules pouvaient... empêcher le retour des abeilles à leur ruche.
D'accord. On parle de molécules qui sont donc dans ces fameux pesticides, en fait.
On parle de molécules qui sont utilisées et qui sont homologuées dans des produits phytosanitaires.
Oui. Ça joue sur les sens ou...
Ça joue... Alors, les mécanismes fins, je ne suis peut-être pas assez scientifique et neurobiologiste pour vous les détailler, mais clairement, il y a à la fois les sens, il y a à la fois la motricité. Voilà, il y a pas mal de phénomènes qui peuvent faire qu'une abeille qui doit se repérer et retourner à la ruche ne peut pas. Si elle n'a pas l'énergie, si elle ne sait plus bien voler, c'est une cause majeure. Et puis, si elle ne sait plus se repérer, c'est là, évidemment là aussi une cause très importante.
D'accord. On parle dans ce domaine de ce qu'on appelle les nicotinoïdes, c'est ça ?
Les néonicotinoïdes.
Les néonicotinoïdes, d'accord.
C'est cette famille dont on parle depuis les années 97-98, qui ont fait monter tout un mouvement au sein de l'apiculture française. Il y avait un produit qui a été emblématique, qui s'appelait le gaucho, dont on a beaucoup parlé. Voilà. Pendant longtemps... la France et les apiculteurs français ont été un peu les seuls à mobiliser leur opinion publique autour de ces produits en disant ces produits qui ont certaines capacités, certains avantages pour les agriculteurs, il faut le reconnaître, sont toxiques pour les abeilles. Et voilà, on a des problèmes à partir de l'arrivée de ces produits-là sur la survie des abeilles.
D'accord.
En fait, petit à petit, j'ai l'impression que le monde entier s'intéresse de plus en plus à cette famille de produits comme une source potentielle, effectivement, de dégâts sur les pollinisateurs en général.
Oui, parce que dans mon introduction, je parlais justement de ce vote de la Commission européenne. Ça traitait directement de cette interdiction, en tout cas pour quelques applications, de ces néonicotinoïdes.
Comme vous dites.
Vous avez compris.
Comme vous dites. Oui. Il y a eu effectivement un rapport de l'agence européenne, l'EFSA, sur ces produits-là et surtout sur leurs conditions d'homologation. C'est-à-dire que ce sont des produits qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont véhiculés par la plante, par la sève de la plante. Donc en fait, on enrobe la graine de ce produit-là, et ce produit-là va migrer petit à petit dans l'ensemble de la plante au fur et à mesure de sa croissance, pour protéger et a pour effet de protéger la plante de certains insectes qui pourraient se nourrir de la sève de ces plantes.
C'est-à-dire que ce produit, il est mis dans les dès la graine, en fait.
Dès la graine, il enrobe la graine et il est mis dans le sol avec la graine, quoi, en fait, au semis. Et en fait, voilà, ce à quoi on ne s'attendait pas dans les années 80.
Tous les agriculteurs fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que
non, il y a certains produits qui sont homologués sur certaines cultures. Après, tout ça est très réglementé malgré tout. Voilà, mais la plupart des céréales maintenant sont enrobées avec des
néonicotinoïdes. C'est-à-dire qu'on a, je veux être sûr de bien comprendre, on a un traitement chimique de la céréale, de la graine, avant même d'identifier une maladie ou un problème sur la.
Oui, c'est une bonne remarque de votre part. C'est un peu ce qu'on dit, c'est-à-dire que pour nous...
C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'agriculture raisonnée, là. On est dans...
Ce type de protection des cultures est une protection systématique. Et n'est pas une protection raisonnée en fonction des attaques. Et ça nous gêne un peu parce qu'on a l'impression que dans certaines régions, sur certaines cultures, ces produits peuvent être en trop. Donc il faudrait peut-être les conserver pour certaines régions pour lesquelles les attaques de certains parasites sont manifestes.
Est-ce que ça change quand même un peu ou pas ? Est-ce qu'il y a une...
Alors oui, il y a toute cette prise de conscience justement des agences qui homologuent les produits et qui disent en fait clairement les conditions dans lesquelles ces produits ont été homologués ne prennent pas en compte leur façon d'agir particulière qui est la systémie et donc le fait que ces produits restent longtemps à disposition des abeilles, finalement, ou à disposition des pollinisateurs. Enfin, disposition, c'est un mot gentil, évidemment, dans ce cas de figure. On a l'habitude d'homologuer des produits qui ont des effets choc, mais c'est ce genre de produits qui transitent par la sève, on n'est pas habitué à les homologuer, et les processus d'homologation actuels ne sont pas suffisants pour bien identifier leur toxicité.
D'accord. Ce vote donc qui n'est pas passé vendredi, c'est une déception, j'imagine, pour c'est à la fois une prise de conscience,
oui,
j'imagine, dans le sens où on se dit la Commission européenne s'empare du dossier, ça veut dire qu'on commence à prendre conscience, et une déception. Pourquoi des pays comme l'Allemagne s'abstiennent, même si on peut comprendre
sans doute qu'il y a des lobbies extrêmement forts, pourtant dans un pays qui est dont on sait que le mouvement écologiste est très fort aussi. Mais bon, l'industrie a peut-être plus de poids que le mouvement écologiste en ce moment, compte tenu des difficultés économiques, etc. Maintenant, je sors de mon sujet, je vais pas développer là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que depuis, dans les 10 dernières années, on a une évolution manifeste de la prise de position, des positions, des pouvoirs publics et de la société civile par rapport à ces produits. Hein. Je veux dire, en 98, les apiculteurs qui ont commencé à mettre en avant l'éventuelle toxicité des néonicotinoïdes ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec l'administration du ministère de l'Agriculture, etc. Je crois que maintenant, on a une administration qui nous écoute et qui comprend un peu mieux les problèmes, même s'ils n'ont pas encore toutes les clés pour les résoudre. On est beaucoup plus écoutés. Et le monde agricole lui-même s'inquiète aussi de ces difficultés des abeilles, du fait qu'elles assurent une pollinisation qui est utile pour le monde agricole aussi.
Ben oui, c'est ça.
Et donc ils disent, mais nous, on nous a proposé des produits comme des produits qui étaient bons pour l'environnement, enfin qui étaient un progrès par rapport aux produits précédents, les fameux organochlorés ou les fameux organophosphorés, des produits qui étaient plus ciblés, des produits qui étaient plus sélectifs. Et en fait, on s'aperçoit que voilà, l'homologation, quelque part, a été mal pensée, mal raisonnée, et peut-être des autorisations ont été données un peu trop facilement.
Alors, est-ce que ce serait pour développer une agriculture plus intensive, ou est-ce qu'on a découvert les risques au fur et à mesure du temps
Oui, non, mais je crois que personne n'imaginait, je pense sans doute pas les scientifiques des firmes non plus, hein, que les micro-microdoses, parce qu'on parle de nanogrammes, hein, on parlait de nanotechnologie tout à l'heure, là on parle vraiment de toutes petites doses, que ces doses qu'on peut retrouver dans certaines conditions, dans le nectar qui est la substance initiale du miel, ou le pollen lui-même, ces microdoses puissent avoir un effet sur les abeilles, quoi. Personne ne l'imaginait, et il a fallu de très nombreuses études pour arriver à la conclusion et pour que nos différents ministres de l'Agriculture prennent des mesures de retrait d'homologation sur certaines cultures qui sont butinées par les abeilles.
Parce que, est-ce que d'un côté, ça serait pas un peu démagogue de dire que ça correspond un peu à un projet de société où on s'assure contre le risque, en l'occurrence le risque que les plantes puissent être attaquées, une société de l'assurance tout risque ? Et au détriment d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé avant. C'est un projet de société.
Je ne sais pas si je peux vous suivre là-dessus. Là, c'est vraiment une réflexion de société. Donc moi, en tant que spécialiste de l'abeille, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que effectivement, les agriculteurs ont besoin de protéger leur culture. Ça reste une vérité et une évidence. On est de plus en plus nombreux sur la terre. Il y a une alimentation à assurer. Hélas, elle est mal répartie, mais voilà, il y a des progrès à faire de ce côté-là. Mais on a ce challenge-là quand même. Et donc, voilà, les deux positions se défendent. Et après, c'est l'évaluateur du risque, c'est le gestionnaire du risque, plus exactement, qui décide. On sait que ces produits sont dangereux. Il faut limiter au maximum leur impact sur la faune sauvage ou les abeilles domestiques. Pour autant, après, l'évaluation du risque, il faut la faire. Si ça conduit à de tout petits dégâts, peut-être ces risques sont, du point de vue du décideur, du point de vue du gestionnaire du risque, supportables. Ce qui est mal vécu par les apiculteurs, évidemment, qui voudraient n'avoir aucun risque. Mais quelque part, de l'autre côté, on a besoin de cultures qui produisent. Donc, entre les deux, il faut trouver un équilibre.
Et est-ce que s'il advenait que ces néonicotinoïdes, je vais y arriver, très bien, soient finalement bannis ou interdites, est-ce que l'industrie chimique ne va pas revenir quelques mois après avec d'autres produits
Évidemment. Il y a déjà des nouveaux produits qui sont dans les cartons, qui sont en cours d'homologation ou en cours de test. Bien évidemment que l'industrie chimique trouvera de nouveaux produits. Est-ce que ça sera des produits plus respectueux des pollinisateurs? Je ne sais pas, on verra bien.
C'est pour ça que le combat se joue au niveau de l'homologation.
Voilà. Pour moi, le combat se joue au niveau de l'homologation. Après, on a quelques cas de mésusage, évidemment, qui conduisent à des intoxications ponctuelles. Un agriculteur qui a été mal informé, qui a passé un produit qu'il n'aurait pas dû sur des fleurs. Bon, ça, c'est des cas qui arrivent. Mais là, vraiment, c'est un problème d'homologation. Parce que tous ces agriculteurs qui utilisent l'enrobage de semences, en aucun cas pouvaient penser qu'ils étaient en train de nuire aux pollinisateurs. En aucun cas. Donc c'est pas le problème des agriculteurs. C'est très en amont. Tout ça est très en amont.
Aujourd'hui, on n'a pas parlé de la fameuse aussi de la chaîne alimentaire, mais les abeilles font partie de la chaîne alimentaire. J'imagine, elles ont un rôle, elles sont mangées par des insectes, enfin, les oiseaux, etc. On observe déjà des signes. De certaines dépopulations d'oiseaux. Ça veut dire qu'il y a déjà des conséquences sur les conséquences sur cette chaîne alimentaire. Est-ce que ce n'est pas trop tard, du coup ?
Alors, non, je ne sais pas quel lien vous faites entre les dépopulations d'oiseaux et les abeilles.
C'est-à-dire que ces produits... La dépopulation...
Les éventuelles intoxications d'oiseaux, si ça existe, c'est un sujet que je ne connais pas bien.
Non, ce ne serait pas des intoxications d'oiseaux, ce serait le fait que les oiseaux n'aient plus rien à manger si les insectes parmi lesquels les abeilles sont détruites.
Parce que c'est aussi un cas de figure qu'on peut envisager.
Oui, j'imagine.
Particulièrement si les oiseaux consomment des graines directement enrobées, par exemple.
Ouais.
Voilà. Donc, si on est dans... Bon, moi, je n'ai pas l'impression, en tout cas, en ce qui concerne les abeilles domestiques, elles ont la chance, et nous avons la chance, que des apiculteurs passionnés, qu'ils en fassent leur métier ou qu'ils en fassent leur loisir, et tout simplement, s'en occupent. les multiplient, les reproduisent, même si, hélas, beaucoup se sont un peu désespérés dans les dernières années et découragés du fait que c'était de plus en plus difficile et que ça demandait de plus en plus de technicité. D'ailleurs, on le voit bien dans les chiffres, l'apiculture française est de plus en plus professionnelle, c'est-à-dire que le nombre de ruches moyen par apiculteur augmente un petit peu tous les ans.
Sauf à Paris, peut-être.
Oui, sauf à Paris, encore que je pense qu'il y a de plus en plus d'apiculteurs parisiens. Donc,
oui, oui, mais donc, du coup, peut-être moins professionnels que...
Oui, oui, bien évidemment. Bien évidemment. Et donc, voilà, les abeilles domestiques ont cette chance-là d'être élevées par des passionnés. Ce qui n'est pas le cas des pollinisateurs sauvages, qu'on appelle globalement les abeilles sauvages, hein, mais il n'y a pas que des abeilles dans les pollinisateurs sauvages. Et ceux-là ne sont protégés par personne. Ils sont étudiés, regardés par quelques entomologistes, mais effectivement, personne ne les élève. Et donc là, les atteintes à leur environnement ou à leurs ressources naturelles et alimentaires sont beaucoup plus graves. Parce qu'aussi, souvent, ce sont des abeilles sauvages et individuelles qui ne constituent pas une société, une colonie. Et du coup, c'est beaucoup plus, leur survie est beaucoup plus engagée. Parce que si un insecte meurt, c'est sa descendance qui n'existe plus. Alors qu'avec une colonie d'abeilles, même si on a, je vais donner un chiffre un peu coup de poing, mais même si on a 10 000 abeilles qui meurent dans une ruche en pleine saison, la colonie peut continuer à survivre. Elle sera affaiblie, mais si les conditions lui permettent de reprendre le dessus par derrière, avec des ressources saines par derrière, elle va survivre.
D'accord. Écoutez, il va falloir conclure cette émission. C'est un sujet passionnant sur lequel on aurait pu passer plus de temps. Merci.
Nous n'avons fait que l'effleurer, ça c'est
Nous n'avons fait que l'effleurer, le survoler, le butiner, en fait. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un problème. On voit qu'il y a une prise de conscience, on voit qu'il y a des votes, on voit qu'il y a des associations qui s'intéressent. On voit que cet institut a été créé assez récemment aussi, dont vous êtes le représentant. Un des représentants, donc l'ITSAP. Merci Pascal Jourdain d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous pour votre invitation.
Merci à Thomas Pithiot d'être venu. Merci à Sophie d'avoir fait la technique sur la fin. J'étais au début. Enfin voilà, c'est un peu du bricolage comme dans voilà, mais on est content d'être là. Vous étiez sur Zoom Écologie. Je rappelle que l'émission est écoutable sur le web zoom-écologie.net, qu'elle est rediffusée le mercredi à 11h si je ne m'abuse. 10 ou 11 heures, enfin le mercredi, voilà, il faut écouter Fréquence Paris Pluriel 106.3 tout le mercredi pour être sûr de réécouter Zoom Écologie, qu'elle a lieu tous les jeudis de 20h30 à 21h30 avec 4 équipes qui s'alternent et nous sommes le 3e jeudi. On va écouter pour terminer, j'ai mis le CD, t'as juste à lancer le CD, on va écouter Vincha qui est un jeune artiste parisien, voilà, qu'on recevra peut-être un jour dans cette émission. Merci à tous, bonne soirée, à bientôt.
De la crise et de la crise de foi. Le Graal, l'excès de blanc, nos friandises, le temps qui file. J'agiterai mes grands bras, on réinventera les vis. Eh, t'as cru que quoi ?
T'as cru que quoi ?
Que je parlais pas la France. Mais non, je suis pas bourré, je viens juste d'inventer un pas de danse. Eh les gars, franchement je vous aime, hein les gars. Oups, je viens de tâcher le calap, demain j'irai à Ikea. Quelle heure il a déjà, moi, à pas lire les aiguilles. Une rétine vers le bas, et puis l'autre fixe vers la lune. Si j'ai une mauvaise mine, mais non, je suis pas fatigué. Rien à voir avec le jean, moi quasi à jeun et même baptisé. Et puis viens, on s'en fout, ou du moins viens, on le dit. On boit un peu trop de vin, mais du moins bien on le vit. L'envie ça va, ça vient, l'eau de vie ça vide, ça vient. Tandis que la vie nous avachit, on chante le même refrain.
Paris c'est pas assez beau pour boire que de l'eau. Paris c'est trop dur sans une bonne biture. Paris que je tiendrai jusqu'au premier métro. Paris c'est pas assez beau pour boire que de l'eau. Paris c'est trop dur sans une bonne biture. Paris que je tiendrai jusqu'au premier métro.
Mais non, je suis pas rincé.
Et si je mélange les mots, dis-toi que c'est de la poésie. Je m'en mêle les pinceaux dans mes idéaux, mon polo c'est un arc-en-ciel. Y'a toutes les couleurs des cocktails, et si tu le presses, y'a à boire pour une semaine. Mais je tiens debout comme un marin, prends ma main, allons danser. J'ai pas un sou pour un verre, mais dans les airs je te ferai voltiger. Au matin des ballonnants, les avenues vides, on verra peut-être la neige. Avant que les rues soient grises et que reprennent le manège, on chantera.
Paris c'est pas assez beau pour boire que de l'eau. Paris c'est trop dur sans une bonne biture. Paris que je tiendrai jusqu'au premier métro. Paris c'est pas assez beau pour boire que de l'eau. Paris c'est trop dur sans une bonne biture.